Vous êtes sur Radio Zone, Remue Ménage, Onde Femme 93.8 et vous êtes en compagnie de Marianne qui a de nombreux invités autour de notre table pour aborder le problème du sida et de sa prévention face aux jeunes et aux femmes en particulier. Vous parlez avec Barbara Diego, de jeune de 19 ans, Martine Beauvais, Brigitte Studer. Martine Beauvais qui a rédigé une brochure « Sidaventure, Sidamour » dont nous venons de parler avec Barbara Diego et qui aimerait poser des questions supplémentaires encore à Barbara et Diego.
Ouais, moi j'aurais eu envie de parler avec Barbara et Diego parce que je trouve que j'aime bien qu'on peut parler comme ça, mais juste une chose que je voudrais vous demander, parce que bien souvent quand on parle du sida, j'ai l'impression qu'on n'entend que pénétration, c'est-à-dire un zizi de taille moyenne qui pénètre dans une dame. Au niveau éducation sexuelle à l'école, vous savez que je crois c'est en Suède où on a fait des zizi de 12,5 cm pour montrer comment on enfile un préservatif, puis on s'est rendu compte que et un certain nombre de garçons qui étaient gênés parce qu'ils allaient mesurer leur et puis étaient plus petits ou plus grands. Mais est-ce que c'est vraiment ça, pour vous, la relation amoureuse, la tendresse, les caresses? Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Non, c'est pas que ça. Et c'est aussi de la tendresse, c'est aussi des caresses, mais c'est aussi, et surtout, je crois, une complicité, et puis un dialogue, et puis c'est le plaisir de pouvoir partager plein de choses avec quelqu'un, pas seulement du physique, pas seulement partager son corps, mais aussi des passions, mais aussi d'aller au cinéma, d'aller dans les expositions, d'aller manger au restaurant, et puis je crois pas que ça change beaucoup les relations amoureuses entre adultes et entre jeunes. Vous avez été jeune et je pense pas que ce soit que ça ait été seulement une relation purement sexuelle et froide, un peu clinique, mais je sais pas.
Non, pour moi c'est plutôt la tendresse, les gestes furtifs, les regards, les silences qui sont importants. Et pas tellement le contact physique à premier abord, quoi.
Et pourtant, si on en vient justement beaucoup à parler en ce moment de sida, c'est à cause justement du problème de la pénétration, puisque c'est là qu'il y a risque de contamination. Et que le meilleur moyen de se préserver contre le sida, c'est d'utiliser un préservatif, qui est quelque chose qui n'est pas forcément justement évidente. Alors, est-ce que vous, par exemple, dans vos relations sexuelles, vous utilisez un préservatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est une évidence?
C'est pas une évidence parce que c'est pas, comme je l'ai dit, un, c'est pas facile d'en parler, deux, c'est pas très romantique, et trois, parce que c'est vital, c'est un besoin vital si on parle du sida. Et moi, j'ai en tout cas pour ma part, moi j'ai changé ma manière de vivre et sur le plan sexuel en tout cas. C'est-à-dire que maintenant le préservatif ça fait partie de cette vie-là, alors qu'avant pas du tout, parce qu'il y avait la pilule, comme je l'ai dit aussi avant, et que c'était facile parce qu'il n'y avait pas de préméditation, ça c'était spontané, ça se passait comme ça, il n'y avait pas de questions à se poser, il suffisait d'avaler tous les soirs une petite pilule et puis le monde est beau, alors que maintenant il faut y penser, et puis c'est pas je veux dire, de faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas prémédité. Donc, le fait de penser, il faut que j'aille acheter des préservatifs, pour moi, ça tue quelque chose sur le plan de la spontanéité. Et c'est pas évident. C'est pas évident aussi parce qu'on est deux. Parce qu'il faut en parler avec une autre personne. Et que suivant la personne, c'est pas facile.
Est-ce que vous avez l'impression, l'un comme l'autre, que c'est toujours vous qui posez cette question? C'est toujours vous qui abordez ce sujet?
Alors moi, je dirais à propos du préservatif que, bon, étant donné qu'on en parle maintenant, on est obligé, dans une relation de couple, d'en parler, que personnellement, c'est une sorte d'obligation, c'est une sorte de confiance, de rapport de confiance, et que c'est surtout au garçon d'en prendre la responsabilité, il me semble, en étant honnête.
Là, Barbara a des doutes. Alors peut-être que tu n'as pas la même expérience.
Non, parce que comme c'est joli, m'ont dit dans la brochure, la pilule a libéré l'homme et que je crois qu'il a un peu perdu l'habitude de parler de ces choses-là et que souvent c'est un peu le rôle. Je peux parler que personnellement, mais mon opinion c'est que c'est plus souvent la douce et tendre qui parle de ça, sauf dans le cas qui m'est arrivé où c'était quelqu'un de terriblement paniqué sur le problème du sida, à tel point que c'était même préférable de ne pas avoir de relations sexuelles du tout parce que ça devenait tellement problématique. Et une telle angoisse et une telle peur de la maladie qu'on ne pouvait même plus en parler. C'était presque dangereux d'en parler.
Alors là, Martine, je m'adresse à vous. Justement, on voit que c'est difficile, c'est angoissant. Alors, comment s'aménager le mieux possible pour arriver à avoir une sexualité qui perde un peu de cette angoisse?
J'ai pas la recette. Hein. Si j'avais fait la recette, j'aurais fait fortune. Mais moi, je trouve que Barbara, elle a dit quelque chose de très important, qui a été repris par Diego, c'est le dialogue. Tu disais, dans une relation, c'est important de parler. Moi, quand je t'entends parler, bon, je sens un paquet d'angoisse comme ça, et je me demande si tu t'en fais pas un peu trop. Mais une chose qui me paraît très, très importante, c'est de parler, de communiquer, que ça soit dans le couple, que ça soit dans la famille. Et puis ça pour moi, c'est une chose essentielle. Parce que si on peut parler de ses peurs, et puis parler aussi de ses joies, parce que faire l'amour, c'est aussi beau, hein, puis avoir de la tendresse, c'est aussi beau. C'est important de pouvoir en parler. Et ça, il y a ces deux choses que je sens dans ce que tu dis. Moi, il y a d'abord un gros paquet d'angoisse. Je te sens vraiment très, très fly là, par le sida. Et puis, chez les deux, moi, j'aime bien, c'est ce côté, bon, on en parle, on va en parler. Tu minimises un petit peu les gars, mais il m'a l'air tout près de faire le premier pas. Je crois qu'il faut aussi leur laisser la porte ouverte, hein, parce que c'est aussi, je ne sais pas comment c'est pour un homme de parler de sexualité, mais j'ai l'impression, quand j'en parle avec mes élèves garçons, c'est moins facile de parler de tendresse et de parler de gestes comme ça, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont moins ouverts. Je ne sais pas ce que tu en penses, Diego.
Non, mais je parle personnellement pour moi, je suis personnellement assez sensible à ce problème-là, non ? À ce problème qui est lié à la sexualité. Et il me semble effectivement que, bon, c'est peut-être difficile d'en parler avec des gens, des adultes, etc. Mais que dans une relation de couple, pour faire preuve de confiance et véritablement de pleine de pleine confiance avec la personne, avec le partenaire, et il faut que le garçon soit aussi responsable, c'est-à-dire qu'il utilise les moyens de contraception.
Moi, mon impression, si j'étais un peu dure avec la gente masculine, c'était, je crois, parce que j'ai pu constater, contrairement aux idées reçues, une plus grande pudeur des mots chez mes camarades du même âge que chez les filles. Et la preuve en est pour cette émission. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un garçon qui était d'accord de venir parler de sida, parce que ça impliquait d'utiliser des mots comme sexe, préservatif, ou, etc. Qui était pas, et c'était pas évident pour pas mal d'entre eux. C'est pour ça que j'étais un peu dure.
Brigitte Studer, je crois que vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, je voulais juste dire que, bien sûr, c'est un changement très grand à réaliser, d'introduire cet objet à certains moments, bien sûr, qui ne sont pas toute la relation, et c'est important, et peut-être ça permet aussi de l'affirmer. Mais moi, je pense qu'il faut aussi voir ça dans le temps. C'est-à-dire que c'est difficile à un moment, mais on a du temps, on a peut-être des années pour le découvrir. Et si on peut être très mal à l'aise dans une situation, peut-être dans une autre, ça se passe déjà un peu mieux. À l'intérieur d'une relation, ça peut évoluer, ça peut prendre une autre place. Donc, ce qui au départ peut sembler difficile à intégrer, étranger par rapport à ce qu'on a vécu avant, peut prendre d'autres formes avec le temps. Et je pense que c'est important de le voir dans une durée, dans un rythme, où c'est quelque chose à découvrir, avec lequel on doit pouvoir jouer, et pas qu'on voit comme un obstacle, quelque chose qui nous sépare, en fait. Mais je pense que ça, c'est impossible que ce soit du jour au lendemain, mais ça a aussi effectivement permis peut-être un rapprochement à un autre niveau, ou bien ce que tu as dit avant, le fait de pouvoir dire non à certains moments, d'avoir la confiance par rapport à quelque chose qu'on ressent pas complètement, d'oser affirmer qu'on ne le veut pas, ou bien de le faire différemment.
Vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Barbara, si d'amour, si d'aventure. Et si vous avez envie de participer à notre débat, un téléphone, le 023 50 40 51 41.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida n'est. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour. D'amour sida né, oh sida, sida, sida danger, sida, oh sida, sida amour à mort, oh sida, sida assassin recherché, aimé qui a mis l'amour à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer. Damné d'amour, sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné, oh sida, sida comme le furet, passer par ici, repasser par là. À mort, on rêvait d'amour, à mourir d'aimer, et l'emmerde d'amour, sida, sida né, maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer, seul et sans amour, sida abandonné, si s'aimer d'amour. C'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida né, l'étalé d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida, assassiné.
Voilà, le temps d'une chanson et nous, pour nous, le temps d'un débat, parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement important et aussi intéressant. Dans l'entretemps, on se reparlait du préservatif, du problème de l'usage, de l'emploi du préservatif. Et j'ai téléphoné avec la doctoresse Danielle Lecomte du service de la santé et jeunesse, responsable des cours d'éducation sexuelle, qui me disait, chose que je ne savais pas, c'est que jusqu'en 1980, il était exclu de montrer un préservatif en classe. Alors c'est vrai aussi que bon, bah, maintenant on en voit partout, sur les affiches, dans les journaux, tout le monde en a vu un, mais que c'est quelque chose qui est relativement récent. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de
de barrières, et c'est comme on se le disait justement hors antenne, c'est vrai qu'un préservatif, c'est pas quelque chose de forcément sympathique, c'est pas ajouter un plus dans la relation sexuelle, puisque a priori on a l'impression qu'on ajoute un moins. Alors c'est vrai qu'on lit dans toutes les brochures, il faut apprendre à jouer avec le préservatif, que ça devienne un élément érotique. Bon, c'est très bien écrit, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire. Je crois, Daniel, que vous aviez encore une question à poser à Diego et Barbara.
Oui, moi, on est en train là de parler du sida et du sida au niveau de comment les jeunes réagissent par rapport à la maladie, à cette maladie du sida et par rapport à votre sexualité. Moi, il y a aussi un point sur lequel j'aimerais bien vous entendre. C'est en quoi vous vous sentez concerné par le sida, mais plus globalement, dans le sens qu'on peut se sentir concerné, parce que moi, je peux attraper dans une relation sexuelle, par exemple, je peux attraper cette maladie, mais je suis aussi concernée parce que j'ai des amis qui ont le sida ou j'ai des amis qui auront le sida. Moi, je ne sais pas s'il y a cet aspect-là vous préoccupe ou vous touche.
C'est les deux aspects à la fois et le fait aussi qu'on a des devoirs par rapport aux autres, c'est-à-dire que dans une relation sexuelle, on est deux et que si nous, on n'a pas de crainte de l'attraper ou si on n'est pas angoissé à propos de ce problème, on a par respect pour l'autre un devoir, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir si on l'a ou pas et de ne pas prendre de précautions, ça peut être dangereux pour quelqu'un. Le fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens malades et autour de nous, ça implique qu'on a aussi des devoirs vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire des devoirs de compréhension et de solidarité par rapport à ces gens. Et de pas faire des ghettos de gens malades, de gens atteints du sida. Et je crois que c'est par l'information que ça se fera et par une discussion plus intense à propos du sida. Parce que la mauvaise information, elle conduit souvent à des préjugés, des fausses idées ou des idées reçues. Et je crois que dans le cadre du sida, c'est assez généralisé. Qu'à voir ce qui se passe maintenant aux États-Unis avec, par exemple, les groupes d'homosexuels qui non seulement... Pour les malades homosexuels, qui non seulement sont malades, en plus sont homosexuels, c'est-à-dire souffrent par deux fois
d'une marginalité.
Voilà,
enfin, ils sont mis en marge.
Exactement.
Alors, je crois que justement, c'est un moment pour parler plus précisément avec vous, Brigitte Studer, qui est coordinatrice au groupe SIDA Genève, de parler aussi de qu'est-ce qui se passe pour les personnes séropositives. Parce que c'est aussi une chose d'en parler, ça n'arrive qu'aux autres, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir, quels besoins on a et qu'est-ce qu'on attend finalement de la société dans un cas pareil. Peut-être qu'avant d'aborder le problème plus précisément, vous pourriez nous rappeler le travail de SIDA Genève.
Je travaille donc pour le groupe SIDA Genève, qui est l'antenne régionale à Genève de l'aide suisse contre le sida. Nos objectifs sont d'une part de travailler par rapport à la prévention, je ne vais pas y revenir, mais ça en fait partie, de lutter contre la discrimination des personnes directement concernées aussi, et de l'autre côté, de travailler par rapport au soutien des personnes directement concernées ou bien des personnes séropositives, des malades ou leur entourage. Dans le groupe SIDA, ce sont surtout des volontaires qui se sont engagés par rapport à ces activités. Moi, je coordonne cette activité. Et nous avons développé une permanence téléphonique, une soirée d'accueil le mercredi soir au groupe SIDA à la rue de l'Arquebuse, et un groupe, bientôt un deuxième, d'accompagnants, de personnes qui ont choisi d'accompagner une personne malade par rapport à sa situation. Ceci, bien sûr, par rapport à l'isolement que souvent, trop souvent, vit une personne malade. Par ailleurs, nous avons pu créer un groupe de personnes séropositives et malades qui fait un travail ensemble, une manière de sortir de l'enfermement dans cette maladie et de l'isolement. Ce que je voudrais dire par rapport à ce que ça signifie pour une personne séropositive, bien sûr c'est différent d'une histoire à l'autre, je pense que ça a beaucoup d'effets au niveau déjà de la vie sociale tout court. Ce que ça signifie pour la personne de vivre avec ce diagnostic, ce test, c'est dans le temps aussi. C'est une chose, la crise du départ, de le fait d'apprendre d'être séropositive, qui souvent est extrêmement difficile, qui peut être très brutal aussi selon comment a été annoncé le résultat du test, où ont été faits beaucoup de progrès, il faut l'admettre. Mais aussi, ça peut être difficile d'intégrer vraiment et de vivre dans le temps. Par exemple, une personne séropositive qui a une grippe, moi aussi qui suis à côté d'elle, je me dis « ouf, qu'est-ce que c'est ?» Ou l'autre jour, une personne avait une pneumonie, là, je me disais « voilà, ça y est, il est malade ». Et de fait, c'était une pneumonie, comme tout le monde peut avoir une pneumonie, c'était pas du tout ça. Mais le fait de toujours de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est extrêmement difficile à vivre déjà dans le rapport à soi-même, d'avoir des projets, d'oser espérer par rapport à ce qui peut se passer. Aussi, par rapport à ce qui peut se vivre dans une relation de couple, justement, c'est difficile à intégrer. Et souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que pendant un certain temps, en tout cas, ça fait une rupture, la sexualité, d'une certaine manière, n'est plus vraiment possible. Ça peut être dépassé, effectivement, mais il peut y avoir un moment où effectivement, d'intégrer le préservatif, c'est difficile, où ça paraît difficile que l'autre puisse donner quelque chose qui peut être mortel, ou bien qu'on puisse le donner à l'autre, même s'il y a cette possibilité-là de la prévention. Ou aussi à l'intérieur d'une famille, c'est extrêmement difficile d'admettre. Les homosexuels ont pu me dire, mais c'est impossible que je dise ça à mes parents, jamais ils l'admettraient. Mais j'ai aussi vu une mère qui m'a dit, je sais que mon fils est homosexuel, j'ai peur, il ne va pas bien. Peut-être bien qu'il a le sida, j'aimerais pouvoir l'aider, mais c'est impossible, j'en parle jamais, jamais, jamais. Mais comment je pourrais savoir? Je veux dire, dans une famille où déjà l'homosexualité a pu être difficile, ou la toxicomanie aussi, c'est vrai que ça devient aussi parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé. Et pourtant, je trouve qu'ici, à Genève, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, il peut y avoir des réactions vraiment de rejet, mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, il y a des familles qui sont d'accord d'être là, d'être présents, même si après, à l'extérieur, ils ne diront jamais. Je veux dire, ils parleront d'autres choses. Pour des parents aussi, c'est difficile de dire « mon fils a le sida » ou « ma fille est malade du sida ». On n'ose pas dire ça dans le voisinage ou dans l'entourage. Donc à tous ces niveaux, uniquement déjà des relations sociales, c'est extrêmement difficile à vivre. Et puis après, il y a aussi toutes les conséquences, plus au niveau plus au niveau des structures sociales comme l'assurance maladie, le deuxième pilier, l'emploi, où nous, ce qu'on peut seulement souhaiter, c'est que les personnes qui décident de faire un test fassent un test anonyme. Parce que c'est vraiment extrêmement important qu'il n'y ait pas de traces, dans la mesure du possible, d'un test éventuellement positif.
Mais de là réside l'ambiguïté, puisque d'une part, on se sent extrêmement isolé, extrêmement rejeté aussi, et que en pouvant dialoguer, en pouvant quand même se sentir intégré dans sa famille et avec ses amis, ça permet peut-être de mieux surmonter ce choc qui est un choc inimaginable tant qu'on ne l'a pas vécu. Et puis en même temps, il ne faut pas le dire, puisqu'il y a des risques au niveau social. Alors,
ça crée effectivement une situation très conflictuelle, souvent. Je pense que, d'abord, c'est très important de bien réfléchir, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire le test. Je veux dire, une chose, c'est de faire pour voir qu'il est négatif. Autre chose, c'est de pouvoir accepter le fait de vivre avec un test séropositif. Ça peut être un choix tout à fait bien, je veux dire, et important de le faire. Mais je pense qu'il faut bien y réfléchir avant et savoir à quelles questions il doit répondre. Il n'est pas très utile par rapport à la prévention, parce que de toute façon, il faut la faire. On a vu avant qu'on est deux. Donc, ce n'est que dans une relation de couple vraiment stable et fidèle à long terme qu'on peut faire le choix de ne plus utiliser de préservatif, par exemple. Mais... autre, ou par rapport à une grossesse aussi, ça peut être important de faire un test, bien sûr. Donc là, ce sont des situations où un test amène une réponse, donc où ça peut valoir la peine de le faire.
Tu veux dire quelque chose ? Oui, moi je voulais vous demander quelque chose, c'est que justement par rapport à ce problème du sida et de l'avoir contracté, et d'être, d'une certaine manière, vous dites quand même faire partie d'une caste spéciale, et qu'on ne peut pas répandre ça dans le voisinage. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur? Est-ce qu'on pourra changer je suppose que c'est impossible de changer des mentalités ou changer une structure sociale. Mais alors que peut espérer ce genre de personnes?